Il me reste quelques petites remarques complémentaires. Une qui est quand même une vraie considération tout de même, c'est-à-dire qu'on a tout compliqué. Alors, on dit qu'on fait du social, etc. Personne n'y comprend plus rien, quand même. Bon, et moi, je n'ai pas changé de fournisseur, parce que pour des clopinettes, j'allais y passer des heures, avec des offres qui sont illisibles. Hein. Il y a quand même un vrai problème.
Pas pour tout le monde.
Alors, moi, je veux bien qu'on ait l'élitisme, qu'on dise que c'est un jeu de société. Ok, mais je ne vois plus très bien le rapport avec nos sujets. Derrière ça, une réalité historique plus profonde. Je ne veux pas me situer dans une logique le service public et l'intervention publique de l'État et des collectivités est mieux que le marché, ou l'inverse. Qu'est-ce que je constate simplement? C'est que dans l'histoire, on a un système oscillatoire entre le marché et l'intervention publique. Quand il fait beau, on dit, mais qu'est-ce que l'État vient s'emmerder dans ce truc-là? L'énergie, c'est comme les casseroles, etc. On n'a pas nationalisé les casseroles. Il fait beau, on passe ça au marché. Donc, il a fait beau à partir de 85 jusqu'en septembre 2000. Prix bas d'énergie, investissement fait, et honnêtement, il eût fallu déréguler, ouvrir au marché en décembre 85 quand le prix du pétrole s'est cassé la figure, et il fallait arrêter la récré en septembre 2000 quand le prix du pétrole s'est mis à remonter. Malheureusement, le temps de décision dans nos sociétés est légèrement plus long. Et puis bien évidemment, dans l'histoire, chaque fois que ça se passe mal, on se réaperçoit que la question de l'énergie et des activités qui y sont liées sont des activités fondamentales des sociétés. Et à ce moment-là, on dit à l'État, dites-donc, nation en danger, vous revenez. Donc on a bien évidemment nationalisé en 1946. On a bien évidemment renforcé l'intervention publique au moment des chocs pétroliers des années 70. Et puis là, maintenant, on en a discuté depuis hier matin, on est dans une re-régulation par objectif qui se fait par voie européenne. Puisque maintenant, alors on est dans un marché ouvert, mais c'est l'Europe qui dit quel type d'énergie vous avez le droit de produire, avec quel type d'efficacité, avec quel résultat environnemental. Donc en fait, on est re-régulé par objectif. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a cette espèce d'oscillation historique. Et puis le dernier point que je dirais pour finir là-dessus, ben vous voyez bien qu'on n'est pas dans un système dérégulé, hein. On est dans un système hybride. Hein. On est dans un système hybride dans lequel il y a un marché des prix qui reste quasi public. On a une diversité d'entreprises, et c'est une bonne chose. On a une séparation des acteurs, et on a une régulation par objectif de niveau européen. Bon, mais vous voyez, la remarque que je voudrais faire, une fois avoir dit tout ça, pourquoi ces choses-là ne sont pas écrites loyalement dans le débat public. On a tous besoin de comprendre dans quel monde on vit. Et on est dans un jeu sur cette question-là où chacun se cache derrière son petit doigt. Je suis régulièrement auditionné à Bruxelles là-dessus. Vous avez des gens qui vous disent la main sur le cœur, Kyoto, etc. Et qui commencent comme ça. Et puis, deux phrases plus loin, ils vous disent que l'ouverture du marché va baisser les prix pour tout le monde. Hein. On est dans un salmigondi absolument hallucinant et qu'il faudrait là-dessus, je dirais, de la sincérité. Et on en a besoin.
Alors un peu de sincérité.
Non, mais moi je rejoins complètement Pierre Radan, que la lecture, l'ingénieur que je suis, à la lecture de ce qui se passe physiquement, est essentielle. Alors quelques termes quand même d'espoir et de progrès sur ce qui a changé, me semble-t-il, en 10 ans. C'est vrai que, et moi je me place immédiatement à l'échelle européenne, et on a introduit de la fluidité entre les différents opérateurs européens qui font que, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de chances à ce que l'hydraulique suisse participe au passage des pointes en France qu'avant. Et là, on voit bien qu'en termes d'optimisation technique quasiment, hein, puisque là, c'est les capacités techniques des centrales, d'utilisation du parc de production européen, on a gagné. Et deuxièmement, je pense que, bon là, je parle des gestionnaires de réseau, ça nous a énormément poussé, et on le fait à développer les interconnexions pour encore plus gagner en fluidité et donc améliorer encore cet optimum. Alors, et dernier point, oui, mais on en reparlera si vous voulez bien, parce que le physique, après, il bute sur quelque chose dont nous n'avons pas parlé, c'est l'acceptabilité sociale des infrastructures nécessaires dès que l'on veut justement se poser des questions à l'échelle d'un continent d'optimisation d'une ressource. Bon, mais on y reviendra peut-être.
Alors, juste un mot, et après, j'ai vu un certain nombre de mains se lever, donc ça serait bien que vous réagissiez aussi.
Juste un mot, effectivement, à ce que dit M. Arnaud, c'est vrai que nous, en tant que nouvel entrant, nous passons notre temps, en termes de lobbying, auprès du régulateur ou auprès du législateur, à demander des règles. Donc nous, on est en demande de régulation, parce que, en fait... On est dans la phrase de la corneille, en fait. C'est l'acteur dominant qui profite de l'absence de régulation. Donc, et nous, on est en fort... Enfin, le nouvel entrant sur le marché de l'énergie est en forte demande de régulation et de règles qui fonctionnent.
Fair game.
Voilà. En revanche, j'avais une petite anecdote mais qui illustre parfaitement le fait qu'on marche totalement à l'envers aujourd'hui. C'est que si on fait une photographie aujourd'hui des consommateurs français, vous avez la quasi-totalité des particuliers qui achètent au tarif réglementé, la totalité des entreprises qui achètent au tarif réglementé via des mécanismes régulatoires type Tartam, et les deux seuls acteurs en France qui achètent de l'énergie au marché, c'est mon voisin et ERDF.
Qu'est-ce que c'est que le Tartam, juste pour l'information de la mienne et
le Tartam, c'est un mécanisme qu'a mis en place le législateur il y a 2 ans et demi, qui a dit en fait que les entreprises qui avaient fait le choix du marché ont le droit de revenir à un tarif réglementé qui a été mis en place et qui est financé, je faut le reconnaître, qui est financé par EDF et un petit peu Gaz de France.
Merci beaucoup. Alors j'ai vu Jean-François, oui.
Je
te passe le micro.
Tu m'as dit qu'il fallait pas que je continue.
Merci. Jean-François Faugeras, RDF. Donc, mon intervention n'était pas au titre de RDF, mais je réponds sur le plan RDF. Effectivement, nous achetons comme RTE sur le marché, mais croyez-moi, nous y sommes bien forcés. Hein, nous préférerions acheter au coût de production, production de ce qu'est vraiment l'outil industriel. Et là, je me retrouve bien dans mon intervention, à titre personnel, et était par rapport à la présentation, au commentaire de Pierre Rada, dans lequel, évidemment, je me retrouve bien. Et notamment sur l'éclairage économique et historique. Alors, je pense qu'il y a 2 points clés sur lesquels l'histoire jugera. Est-ce que ces 2 points clés, quand on regarde l'histoire de l'économie électrique en France et puis aussi dans le monde, il y a 2 points clés qu'on retrouve régulièrement, qu'on soit un marché privé, public, libéralisé, déréglementé ou réglementé. C'est la question des investissements, c'est-à-dire est-on capable de construire un programme industriel d'investissement, et je dirais aujourd'hui, j'y mettrai même les mégawatts, c'est-à-dire tout ce qu'on va créer demain, je l'espère en tout cas, en système qui nous permettra aussi que les consommateurs économisent de l'énergie. Donc je mets ça aujourd'hui, puisque c'est une vraie question d'actualité, et vous l'avez dit hier aussi, avec la protection de l'environnement. Est-ce que ces systèmes-là, c'est comme ça qu'on juge aujourd'hui les systèmes historiquement, est-on capable de générer avec le système d'incitation les bons investissements industriels sur le plan industriel, sur le plan économique. Bon, l'expérience montre qu'il y a effectivement eu des balanciers très importants. Avant la nationalisation, excusez-moi de revenir, effectivement, c'est des systèmes monopolistiques, mais c'était des opérateurs privés en France. Il y a eu une crise dans laquelle on a eu le programme Ramadier d'investissement. Il a fallu que la main publique, l'intervention publique, soit extrêmement forte parce que les opérateurs, il y a eu une crise dans le croisement investissement, et je viens à mon deuxième paramètre, c'est les prix, c'est le système de prix. Hein, qui s'appelle tarif ou autre chose, c'est le système de prix. Quel est le bon système de prix qui permet de, à la fois d'assurer la compétitivité à court terme et de générer chez les opérateurs publics ou privés le bon investissement. Donc j'ajoute pas, je choisis pas, puisque le débat est bien ouvert, mais c'est les 2 paramètres que tous les économistes, de mon point de vue, enfin moi je me retrouve bien dans les économistes qui travaillent sur ces 2 dimensions-là, eh bien c'est ça qui me semble clé. Et on a des bons exemples en domaine public, en domaine privé, en régulé, en tant que régulé. J'ai pas envie, évidemment, vous vous en doutez, de me retrouver comme certains États américains dans un système qui part en vrille. C'est surtout ça qui m'inquiète dans le système aujourd'hui. Vous avez cité, Pierre, hier, les excès de la finance dans le domaine de la banque, dans le système financier. Aujourd'hui, on invente des choses extrêmement intelligentes, je pense qu'Hervé peut le dire, dans le système de marché d'électricité en termes de couverture de risque. Mon souhait, c'est de savoir si on va être bien porté. Et je termine sur la question des investissements. Et ça, j'ai besoin de l'éclairage d'Hervé Lafaille sur la question. Aujourd'hui, quelles sont, vu de toi, vu de RTE, vu, je dirais, des réseaux, puisque vous êtes chargé d'une mission de vision des plans de production, enfin, du développement de la production en France, c'est votre mission, mais plus globalement, je sais que vous avez une vision européenne. Quelle est votre vision des besoins d'investissement, de production d'électricité à consommation, je dirais, maîtrisée, on ne va pas partir dans des consommations délirantes, pour d'ici à 2030. Moi, j'ai un chiffre que j'avais calculé, mais qui est visiblement, certains spécialistes, je suis vraiment minimaliste, on me dit 350, moi je disais 350 gigawatts, j'entendais des chiffres beaucoup plus importants, d'ici à 2030, est-ce que le système que l'on met en place aujourd'hui sera capable de générer de l'investissement? Mais tu vas peut-être me préciser les chiffres et ta vision.
Non, je ne vais pas préciser les chiffres. Je crois que Frédéric m'a dit que dans votre documentation, vous avez le bilan prévisionnel que nous produisons chaque année, puisque c'est dans notre rôle que effectivement de faire cette étude à l'échelle France et d'alerter les pouvoirs publics qui, vous le savez, peuvent, en cas d'alerte de notre part, lancer des appels d'offres. Donc, à nouveau, on retrouve une intervention éventuelle de la main publique pour faire des appels d'offres et générer donc des signaux d'investissement qui ne sont plus uniquement marché. D'accord ? Donc, le système de régulation en France, c'est ça. Et depuis quelques années, nous poussons beaucoup, et on y arrive progressivement, à ce que ce rapport il soit établi maintenant à l'échelle européenne. De la même façon, pour que on ait, alors c'est de la prospective, hein, 2030, hein, c'est au moins une approche par scénario, et évidemment dans ces scénarios, il y a des composantes comme qu'est-ce qu'on va faire en MDE qui sont très très importantes, mais au moins une approche par scénario qui montre à l'échelle plutôt européenne quels vont être les besoins en fonction aussi des politiques d'offres, et je reviens au renouvelable. Donc, hein, voilà. Non, pas de chiffres là.
Bon, donc, lisez ce que vous avez dans votre mallette. Hein, c'est une des recommandations.
Alors, pas pour 2030.
Pas pour 2030.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vous avez d'autres questions rentrées ou des remarques avant qu'on entame le dernier moment de la table ronde? Sur ces questions de marché, le bilan du marché, bon, c'est clair pour tout le monde? Jean-Damien.
Vous avez dit, M. Lafaille, que un des mérites de toute cette évolution était d'avoir permis de mieux recourir, de pouvoir recourir à l'énergie hydraulique suisse. Mais je n'ai pas compris ce qui empêchait de le faire avant.
C'est pas l'Europe qui l'a fabriqué.
Eh bien, ce qui l'a empêché, pour schématiser, ce qui empêchait de le faire avant, c'était que, alors ce n'était pas des barrières physiques, hein, mais que chacun gérait son équilibre production-consommation un petit peu à son échelle. Et que pour ceux qui voient, hein, j'ai essayé de rentrer un petit peu plus dans la technique. Vous savez qu'une des caractéristiques de l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas, et que donc il faut à tout moment, et c'est notre rôle, assurer qu'il y aura coïncidence entre le niveau de production et le niveau de consommation. Or, il y a des aléas. Donc quand une centrale tombe en panne, il faut avoir prévu des réserves qui immédiatement vont pouvoir substituer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous regardez notre site, le mécanisme d'ajustement qui permet, sous forme d'un demi-marché, c'est-à-dire que nous allons acheter ces réserves à des offreurs qui maintiennent ces capacités, d'accord ? Ben, ce système, il était français, il a été ouvert aux acteurs étrangers. Et ça, dans le monde d'avant l'ouverture, c'était possible, mais on n'y pensait pas. Donc c'est un exemple, quoi. Hein.
Juste si je peux me permettre, sur la question de l'approche européenne et du marché, moi j'ai quand même un dernier élément d'éclairage que je vous soumets, c'est si quelque part ça n'a pas marché, c'est aussi parce que d'un côté, moi je suis tout à fait d'accord avec Hervé Lafaille et Pierre Radan, c'est bien une approche européenne qu'il faut avoir désormais, et en même temps quand on vous parle de la fameuse plaque de cuivre européenne, il y a quelque chose d'un peu hypocrite, parce que la réalité elle est tout autre, et d'ailleurs ce qui vient d'être dit sur la production est une approche très nationale. Moi, je donne souvent comme exemple le moratoire allemand sur le nucléaire. Il y a une hypocrisie derrière ça, puisque à partir du moment où vous faites un marché européen, et je n'ai pas dit que j'étais pro-nucléaire, hein, mais on ne peut pas faire un marché européen et un des pays dit « moi, je ne produis pas à partir de cette source-là ». Par contre, le marché européen et mes consommateurs, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent aller chercher l'électricité à côté. Donc, l'une des difficultés aujourd'hui, c'est d'articuler l'échelon national et l'échelon européen. Or, l'échelon européen ne s'est emparé que d'une partie du sujet. Je vous rappelle que le traité de Rome, il dit « moi, je m'occupe du commerce ».
Hein, j'occupe du commerce, du marché, ce qui se passe avant, etc. Je peux le traiter mieux que sous l'angle du marché. Et donc, quelque part, quand d'un côté, je peux vous mettre sous une autre forme, mais quand l'Europe dit qu'il faut faire 21% d'électricité renouvelable et la France va faire 23, machin, 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 et de l'autre côté, on dit le marché est européen, chaque consommateur fait ce qu'il veut, pas chez Cristal de l'Europe, il y a une sorte de schizophrénie. Donc, le débat, c'est peut-être à terme, est-ce qu'il ne faut pas une vraie plaque européenne de cuivre, une vraie, c'est-à-dire un RTE ou RTE avec un réseau de transport électrique européen avec et est-ce qu'il ne faut pas une politique européenne de la production, parce qu'aujourd'hui on a une politique européenne de la consommation qui, on l'a bien vu, tout saute, mais il n'y a pas de politique, enfin, je sais qu'ils se réunissent régulièrement, mais il n'y a pas une direction unique sur la partie transport, et il n'y a sûrement pas une direction unique sur la partie de la production. Donc je pense qu'on tient là aussi l'un des éléments de blocage de notre ouverture des marchés 10 ans plus tard.
Juste un point en passant, je trouve que c'est extrêmement intéressant le débat qu'on a, parce qu'on a tendance souvent à opposer l'intégration politique à l'Europe des marchés. Alors là, ce que vous venez de dire, c'est que si on veut un vrai marché européen, au fond, il faudrait reproduire quasiment à l'échelle européenne la situation qui était la situation française avant l'ouverture des marchés européens. Transposer le modèle français à l'échelle européenne. Je caricature peut-être un peu votre propos, mais enfin, grosso modo, c'est quand même bien ce que vous dites. Monopole du transport et une politique unifiée de la production. Où la concurrence fabrique de l'intégration politique. Bon.
Alors,
S'il n'y a pas d'autres réactions de votre part, je propose qu'on entame le dernier round. Hein? D'accord. Sur les marges de progrès, c'est-à-dire sur nos deux sujets, hein, le consommateur citoyen, améliorer sa situation, et l'efficacité énergétique et la lutte contre le changement climatique, quelles sont les marges de progrès dans le dispositif actuel qu'on pourrait introduire? Alors évidemment, on ne va pas refaire la totalité du dispositif, mais peut-être que chacun d'entre vous, vous avez 2-3 points qui vous paraissent stratégiques, nodaux dans le système, qui pourraient avoir des effets de levier. Voilà, c'est un peu la question que je pose.
Oui, moi je vais m'exprimer d'une façon très simple. Le système n'est pas aujourd'hui totalement abouti, et ce qui me semblerait nécessaire d'avoir, c'est un système qui serait le suivant: une production d'énergie en amont privée, les centrales, enfin, si on est toujours sur le choix d'électricité, avec des tailles d'opérateurs, des techniques, etc., entre les renouvelables, le fossile, le nucléaire, et tout ça, c'est très compliqué. Mais en gros, faut peut-être sur le nucléaire, mais une production privée. Alors je dis à Hervé Lafaille, j'aimerais bien avoir sa réponse. La partie importante du jeu, c'est pas parce qu'il est là, la partie importante du jeu, c'est le réseau. C'est le réseau, pourquoi? Parce que, comme il a été dit tout de suite, c'est là que se fait la prospective et que se fait, je dirais, le commandement du système. J'ai besoin de combien d'électricité produit, et comment je l'organise sur le territoire et comment je l'écoule vers l'aval. Et là, mon rêve est simple: un service public de droit européen sur l'électricité et surtout sur le gaz, pour assurer l'équité d'acheminement, et que, notamment sur le gaz, n'ait pas droit au gaz seulement celui qui est plus proche du tuyau, hein. Notamment avec l'ours des steppes et le renard du désert. Il faut là un service public de nature européenne. Et puis pour ce qui concerne la distribution, moi je pense qu'on va aller vers une relation qui va être la plus une relation de proximité, c'est-à-dire qu'on va avoir une régionalisation de la distribution. Alors certains pays diront que c'est du public, d'autres diront que c'est du privé, mais avec un lien très fort avec le public. Et donc ça veut dire qu'on va aller vers un unbundling total, une séparation physique des trois niveaux, non pas pour dire je sépare pour pas qu'ils se causent ensemble, mais tout simplement parce qu'ils ont un rapport au marché et un rapport à l'intérêt général qui n'est pas le même. L'intérêt général pour la distribution, c'est le contact avec le consommateur. L'intérêt général au niveau du transport, c'est le pilotage du système et sa sécurisation dans une logique qui est une logique européenne. Quant à la production, bah, tous ceux qui peuvent produire doivent pouvoir le faire, sachant qu'à ce moment-là, le réseau passe des appels d'offres. J'ai besoin de temps qui viennent se mettre sur mon réseau, etc. Donc vous voyez, bon, c'est une image simple que je voudrais vous donner, sachant que par ailleurs, je l'ai dit, il faut un régulateur européen, et que ce régulateur européen, il fait de la planification hard de long terme, notamment sous contrainte d'approvisionnement énergétique et sous contrainte climatique.
Oui, juste une remarque en passant, c'est au fond, d'une certaine manière, c'est effectivement c'est le réseau qui fait la politique. L'échelle du réseau, c'est aussi l'échelle à laquelle la décision et la régulation doivent se faire. On est en train de construire un réseau européen intégré, et donc du coup, par la force des choses, d'une certaine manière, presque mécaniquement, alors c'est presque, on est presque dans une logique d'ingénieur, là aussi, d'ingénieur politique, la régulation doit monter à l'échelle du réseau. Enfin bon, je referme cette parenthèse-là. Monsieur Drouguer, vous avez tout à l'heure indiqué déjà des pistes des marges de progrès sur la question du tarif, enfin des hypothèses sur la question du tarif. Moi j'avais juste une question, peut-être que vous ne souhaitez pas y répondre, c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur un électron ne se distingue pas d'un autre, et donc du coup il est très difficile de différencier le produit de kilowattheure dans un réseau où tout se mélange. Au fond, est-ce que là il n'y a quand même pas des marges de progrès? C'est-à-dire justement... au fond, on se rend compte que la fourniture d'électricité, on pensait que c'était un service, en réalité c'est un bien. Et en réalité, derrière ça, il y a de l'offre de services complémentaires nouvelles. Et est-ce que c'est pas par là qu'on peut différencier et fabriquer de la valeur, de la plus-value?
Complètement. Alors, peut-être pour répondre à votre question et conclure, et puis faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit, nous on souscrit tout à fait au schéma qui vient d'être indiqué. Hein. D'ailleurs, cette demande d'un régulateur européen, ça c'est vraiment essentiel pour nous. Dans ce grand débat qu'il y a eu au niveau européen, qui malheureusement d'ailleurs a pris beaucoup trop d'importance, parce que le fondement de l'organisation du marché européen ne reposait pas sur cette problématique. C'est le débat sur l'unbundling qui a été important au niveau européen ces derniers mois. Nous, on a toujours dit à la Commission européenne, du moins pour le marché français, c'est pas du tout le problème du marché. On n'a aucun problème avec le gestionnaire de réseau de transport, et il y a une indépendance, et on la constate chaque jour. En revanche, dans notre vision de l'organisation du marché, c'est là que je suis content d'entendre ce que je viens d'entendre, nous on disait, à la rigueur, si on est pour un unbundling sur le réseau de transport, on est pour un réseau de transport 100% public, qui appartient à l'État. Parce que pour nous c'est un monopole naturel, ou alors... Enfin, c'est-à-dire qu'on était pour la séparation patrimoniale à condition que RTE était nationalisé, et que c'est un monopole naturel, c'est le garant des services publics. Donc, comme c'est le garant des services publics, nous, on considère qu'il y a de la concurrence à l'amont sur la production, de la concurrence sur la fourniture, mais le garant des services publics, c'est l'État, et en plus, nous, on aura des outils de régulation. Voilà, c'était la seule hypothèse où on était pour l'unbundling. En gaz, c'est différent. En gaz, on était vraiment pour l'unbundling, parce que là, il y a des gros problèmes sur le marché, mais bon, on va peut-être pas, comme on a dit, qu'on ne parle pas de gaz, mais on était vraiment pour le gaz aujourd'hui. Bon, pour résumer, dans l'électricité, on a dit qu'il y avait une rente dans le nucléaire. Dans le gaz, nous, on considère qu'il y a une rente sur le stockage et sur le réseau. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Pour répondre à votre question et pour lier l'ouverture des marchés et le changement climatique, nous, ce qu'on souhaite, en fait, le POEO dont on rêvait au moment de l'ouverture des marchés, ce serait un opérateur qui fournirait une solution énergétique au client, qui va effectivement de la fourniture de l'électron à un prix compétitif, à la pose d'un panneau solaire sur le toit, qu'on est capable de faire, à des outils d'efficacité énergétique les plus innovants possibles, notamment à l'aval du compteur. On a travaillé chez Poeo à un concept qu'on a appelé la Poeo Box, qui en fait, qui existe hein, dans une version initiale, qui permet à nos clients de visualiser leur consommation. Nous, on pense que c'est important que les clients connaissent leur consommation. Et donc on a nos clients qui sont équipés de Poeo Box via leur connexion internet et par les compteurs électroniques, visualisent leur consommation à la journée, à la semaine ou au mois. Ça, on pense que rien que ça, c'est déjà un service de connecte.
La version 2 sur laquelle on travaille, et ça c'est tout à fait lié au réseau, on travaille sur une Power Box qui permettrait de donner des signaux avec l'accord du client, bien sûr, via leur compteur intelligent, des signaux dans l'habitation du client. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait nous prendre l'initiative aux heures de pointe de baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés en accord avec nos clients pour faire des économies dans les périodes de pointe. Enfin, c'est tout un concept. Monsieur évoquait les télécoms. Nous, on pense vraiment que un des, enfin, aujourd'hui, l'aspect principal et de l'ouverture des marchés de la télécom, c'est quand même l'innovation et les services. Aujourd'hui, l'acteur que tout le monde suit, c'est Free, y compris Orange. C'est Free par ses innovations qui est le moteur. Et aujourd'hui, quand il y a ce débat sur la quatrième licence sur le mobile, moi j'ai hâte que Free ait la quatrième licence, parce que là, ils vont booster l'innovation et ils vont booster les autres acteurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est tout ça pour dire que pour nous, il y a un vrai lien entre l'ouverture des marchés et la lutte contre le changement climatique, parce que c'est par l'innovation des services qu'on va pouvoir peut-être résoudre le problème. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on demande, et ce n'est pas nous seulement, hein, c'est toute la profession, parce que nous, on est membre de l'Union française de l'électricité qui regroupe tous les acteurs, hein, et ce qu'on essaye de promouvoir au sein de l'Union française de l'électricité, et ce qu'on propose aux politiques, c'est d'avoir le courage politique de lier une démarche conjointe de pente tarifaire, c'est-à-dire d'augmentation des prix, avec un signal prix qui, là, donne des signaux importants, mais parallèlement, un plan d'éco-efficacité qui soit géré en parallèle, c'est-à-dire on augmente les prix en même temps qu'on permet de baisser les consommations, et si on agit en parallèle, tout le monde est gagnant, parce qu'on a les signaux prix qui permettent d'investir dans la production, et là, on assure la sécurité d'approvisionnement. En plus, accessoirement, on donne des signaux prix pour avoir des meilleurs comportements. Et puis, sur le plan de l'éco-efficacité, on crée des nouvelles entreprises, on crée des nouveaux services et on crée de l'activité. Hein, c'est tout le débat sur la croissance verte. Mais aujourd'hui, malheureusement, le chemin que l'on prend, politiquement, n'est pas du tout ce chemin-là. On est plutôt sur « ne touchons pas au prix » et sur le changement des comportements, on compte sur une taxe. Et c'est vraiment dommage qu'on ne prenne pas ce virage vers le signal prix énergie, c'est-à-dire augmenter le prix de l'énergie et parallèlement jouer sur l'efficacité énergétique.
Merci beaucoup. Jean-Marc Proust est obligé de nous quitter, donc je lui donne la parole tout de suite pour qu'il donne son grain de sel sur les deux, trois points.
De transformation et de marge de manœuvre, de progrès possible.
Oui, je suis désolé, je dois partir. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'une régulation européenne des réseaux de distribution. Le fantasme d'une fédération européenne des collectivités conseillantes et régies, nous on considère que la régulation.
Transport.
D'accord. Et vous nous laissez les réseaux de distribution, parce que vous considérez que c'est vraiment la régulation locale. J'ai entendu la distribution à un moment donné, ça je l'ai critiqué. Il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, sur lequel il faudra forcément qu'on revienne dans les mois ou les années qui viennent, c'est le signal prix de l'électricité non consommée. Si je reviens sur deux événements récents, la refonte des tarifs réglementés de vente qui est sortie cet été, et ce qui était devenu le buzz énergétique de juillet, l'affaire Voltalis. Voltalis, c'est la petite PME qui a lancé l'expérimentation avec la CRE et RTE. En gros, c'est un boîtier que vous mettez chez vous et qui, en fonction de... C'est sur un signal que donne par RTE qui dit, voilà, dans une demi-heure, j'ai une période de pointe et j'aurai besoin de réduire la consommation sur le réseau. Voltalis appuie sur un bouton et coupe le chauffage électrique dans X foyers pour que la consommation tombe et puis ça repart une demi-heure après. Une décision de la CRE a montré que Voltalis devait rémunérer les producteurs d'électricité, EDF en tête, les autres aussi, pour l'électricité qu'ils produisaient qui n'était pas consommée. On n'a pas discuté la portée de cette décision, les enjeux, etc. Mais ça montre bien que le système français n'est pas forcément adapté à des logiques de maîtrise de la demande où on arrive à des situations qu'on peut qualifier de baisse. Mais là-dessus, je veux dire... Tout le monde est coupable. Hein. C'est pas, je ne vais pas attaquer il a créé l'EDF, etc. Il s'agit de diminuer la consommation d'électricité. Tous les élus locaux vont y être opposés parce que les taxes locales sur l'électricité, qui financent en ce moment le RSA, c'est important pour le budget d'un conseil général. Donc on est dans un système électrique français où la consommation d'électricité, personne ne veut qu'elle diminue pour des raisons évidentes. Et on l'a vu aussi avec la refonte des tarifs réglementés, où des tarifs considérés comme vertueux, tels pour avec des offres bleu, rouge, où on paye moins à des périodes basses, on paye plus sur les périodes de pointe, ces tarifs-là ont augmenté, alors des tarifs qui peuvent paraître moins vertueux, tendance à baisser. Et puis également le fait que en France, plus vous consommez, moins vous payez le kilowattheure. Je pense qu'il faudra que dans les années qui viennent, ce chantier-là s'amorce, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un signal prix sur des périodes de pointe. Il faut aussi qu'on donne aux consommateurs, à un moment donné, on va parler de chèque vert, je sais que ça va passer à mes voisins, une sorte de chèque blanc de l'énergie électrique qui serait non consommable. Et je m'excuse encore de devoir partir.
Je voudrais très rapidement réagir sur Voltalis, parce qu'il y a eu une excellente communication, et ça on peut le saluer par son promoteur. Mais quand vous entendez cette communication, je vous invite à vous poser quelques questions. Quand on efface des pointes, on n'économise pas de l'énergie, on la reporte. Ça veut dire que les clients de Voltalis, ils ont de grandes chances de ne rien gagner, puisque la machine à laver qu'ils ne font pas au moment où on leur dit de ne pas la faire, ils devront la faire plus tard. Premier point. Et qu'en plus, comme le signal prix est le même, ils seront égaux, enfin, la facture sera égale. D'accord ? Donc le modèle économique de Voltalis, il a du... Enfin, l'idée a du sens. Le modèle économique aujourd'hui, il est à parfaire. Et les histoires de « on paye de l'énergie qui n'a pas été consommée, qui a été produite et pas consommée » n'ont aucun sens. Puisque, et ça je peux vous l'assurer, à tout moment, la production européenne est égale à la consommation européenne. Je ne dis pas française, mais européenne. Il n'y a pas d'énergie, où passerait-elle ? Qui soit dissipée. Donc attention lorsque vous entendez de la communication là-dessus.
Mais quel est le sens de la décision de la CRE alors ?
Je crois qu'on est d'accord sur le fond du problème. Hein.
Le sens de la décision de la CRE, qui est un régulateur, c'est un peu ce que je fais là, c'est d'attirer l'attention sur les règles qui induisent les bons comportements et peut-être la bonne répartition de la rente, car il y a une rente, il y a un intérêt entre ceux qui agissent et puis les intermédiaires, j'en dis pas plus. Il y a un intermédiaire, il a une idée, mais il ne peut pas capter toute la rente. Et notamment dans l'affaire Voltalis, moi il me semble que le client qui fait un effort, puisqu'il met une boîte... comment elle s'appelle chez lui, et puis puisqu'elle accepte de changer son comportement, eh ben, il est une partie de cette rente. Et c'est une fausse idée de dire que la rente qu'il a, c'est sa facture qui baisse. Parce que c'est du report d'énergie. D'accord ? Si vous baissez votre chauffage pendant une demi-heure, le régulateur va faire que ça va... Enfin, vous allez retrouver peut-être pas exactement, mais ce n'est pas des économies d'énergie. D'accord ? Donc attention au discours quand même.
En tant qu'opérateur, je souscris totalement à ce qui a été dit. Il y a eu une communication très habile du président Voltalis qui est très très éloignée de la réalité.
Merci beaucoup. Alors, juste pour là aussi en forme de conclusion, Nicolas Garnier, vos trois pistes. Vos trois marges de progrès.
Alors d'abord. On va commencer peut-être par un petit satisfecit, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais vous savez que dans d'autres pays, l'ouverture des marchés, puisque c'est ça dont on parle, a été extrêmement douloureuse. On peut quand même dire que nous, ça ne s'est pas cassé la figure. Hein, je veux dire, la Californie s'est cassé la figure, la Suisse est tombée tout près, l'Italie a connu un blackout. Bon, donc, si on veut un peu commencer par... Tout n'a pas été noir, ça ne s'est pas cassé la figure. Voilà. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, moi, j'en aurais que deux, de progrès. Donc, la première, c'est, je pense que même si on est dans une période de transition où chacun cherche sa place, il faut finir les règles, il faut clarifier les règles, en gros il faut sortir de la confusion des genres. Confusion des genres, c'est un peu ce que j'ai dit entre les échelons de décision, le territoire, le national, l'Europe, où il y a une confusion des genres, il y a aussi forcément une confusion des genres aujourd'hui dans les acteurs, il y en a au moins un qui aujourd'hui n'a pas complètement fini sa mue. C'est Électricité de France, pour ce qui est de ce cas, puisque on a aujourd'hui, on ne peut pas à la fois être dans le marché et être du côté du régulateur. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné, quand il a dit l'État français était con, ben c'est normal, il était principal actionnaire, enfin, c'est vous, c'est un peu logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question peut être posée de se dire, est-ce que l'État doit encore intervenir sur la production ? En tant que producteur,
ou est-ce que l'État doit intervenir sur la production en tant que régulateur, seulement régulateur. Il a plus à détenir sous une forme ou sous une autre tel ou tel type d'équipement, avec quelques questions spécifiques sur le cas du nucléaire. Ensuite, sur le transport, même question. Même question. Est-ce que l'État ou la Commission européenne doit avoir les pleins pouvoirs sur le transport? Moi, ma réponse, effectivement, c'est oui. Moi, je crois que s'il y a un échelon sur lequel on doit avoir une maîtrise par la puissance publique, c'est le réseau, c'est les réseaux, pour répondre à Jean-Marc, c'est le réseau de transport qui, à mon avis, doit être à l'échelon européen rapidement, sinon on va avoir un problème, et le réseau de distribution qui, à mon avis, effectivement, je suis assez la logique de Pierre, qui est de dire la maille régionale est probablement la meilleure pour faire les choses de manière efficace. Non pas que la maille départementale ne le soit pas, c'est une première marge, mais il faut quand même se dire aussi qu'il y a aujourd'hui des réseaux de distribution qui concernent 2000 habitants. Ça n'a pas de sens d'avoir un contrat de concession à 2000 ou 5000 habitants aujourd'hui.
C'est la disparition de la FNCCR là.
Non, pas du tout, non. C'est juste que la FNCCR rassemblerait... la FNCCR rassemblerait dans notre scénario des syndicats régionaux, ça ne change rien. C'est-à-dire, on considère aux départementaux régionaux, voilà, c'est tout. Non.
L'ARF.
Heureusement qu'il y a des associations qui défendent les collectivités et on est tout cœur avec eux et on essaie de travailler ensemble. Sur la question de la distribution, là encore, il faut lever la confusion des genres. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un système trop hybride. Soit, et c'est notre point de vue, il faut rendre le pouvoir aux collectivités territoriales, mais rendre le pouvoir aux collectivités territoriales, c'est la mettre en situation soit de faire le travail elle-même, c'est ce qu'on appelle des régies, ou bien de mettre en concurrence, et c'est une vraie concurrence, avec des acteurs qui, là aussi, ne sont pas liés ni à l'État, ni à quoi que ce soit, donc c'est des entreprises privées, et c'est un choix à faire, mais il faut rendre le pouvoir aux collectivités, mais le rendre entièrement, parce qu'aujourd'hui, on fait semblant de croire qu'elles ont le pouvoir, on essaye, avec la FNCCR, de dire qu'elles ont le pouvoir, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'a pas dit, modifier un contrat de concession, c'est impossible, on le change à la marge, mais aujourd'hui, le contrat de concession, c'est quelque chose de totalement figé, puisqu'on parle avec un interlocuteur unique. Dernier élément sur la fourniture, j'aurais fait tous les acteurs, là aussi, la confusion des genres sur la fourniture, c'est effectivement que l'État ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas dire, si l'État doit avoir une action forte dans un des fournisseurs, forcément, on ne peut pas lui demander d'être complètement indépendant sur les décisions qu'il prend sur ce fournisseur-là. Je crois qu'il y a une nécessité d'être clair vis-à-vis de la fourniture. Et puis sur la fourniture, j'en rajouterai une couche en disant l'intégration des questions de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables doit encore être établie à l'échelle des fournisseurs. Pourquoi ne pas imaginer des quotas d'énergie renouvelable comme on a fait les certificats d'économie d'énergie? Donc là, c'est une première marche intéressante, sur les fournisseurs, c'est-à-dire de dire vous êtes fournisseur d'électricité, vous devez fournir 25 ou 22% d'énergie renouvelable. De même qu'on leur dit aujourd'hui, vous devez faire 54 TWh de moins. Et puis dernier élément, le consommateur, parce que c'est quand même lui qui était quand même au milieu du dispositif. Enfin bon, le petit sondage que j'ai fait tout à l'heure, pour moi, est quand même s'il était amusant, révélateur. Je crois qu'on n'a pas encore complètement appris au consommateur à s'assumer du point de vue de sa consommation d'électricité. Il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas ce qu'il consomme, il a une idée de la facture, effectivement, j'entendais madame qui disait le montant, on le connaît, mais globalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on lui parle de sa consommation d'électricité, il n'est quand même pas un consommateur avisé comme il peut l'être dans le domaine alimentaire ou autre, et encore, il y aura peut-être beaucoup à dire. Mais je pense, effectivement, là, il y a eu un débat intéressant sur l'événement cet été, mais je crois que l'idée d'aller vers des compteurs intelligents, l'autre jour, on proposait à des députés quelque chose de simple. Le compteur de la voiture, vous le voyez quand vous asseyez dans la voiture. Le compteur d'électricité, vous rentrez chez vous, vous ne le voyez pas. Il est caché, il est derrière, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bon compteur à l'entrée des maisons où on verrait franchement 555 kWh aujourd'hui? Et quand on rentrait, il y avait des gens qui disaient, comment ça se fait que j'ai consommé 550 aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai laissé d'allumer, etc. Peut-être que c'est aussi simple que ça de mieux consommer et d'être plus responsable. J'en reviens à mon philosophe du 1er siècle avant Jésus-Christ, le connais-toi toi-même.
En fait, c'était l'oracle de Delphes.
Bien. Une ou deux remarques dans la salle? Oui.
Alors, attends,
tu te présentes et tu dis d'où tu parles.
Un amendement qui est passé cette nuit sur la précarité énergétique, donc c'est une avancée, qui introduit la lutte contre la précarité énergétique dans les PDALPD, je ne sais pas si vous connaissez les plans départementaux d'amélioration du logement des personnes défavorisées, qui est un premier pas important, et M. Pelletier vient d'être nommé en charge d'un rapport, donc cette nuit, en charge d'un rapport sur la précarité énergétique qui va rendre en décembre. Bon, il faut considérer qu'il vient d'avoir deux signaux intéressants, enfin, cette nuit.
Bien. Bon, c'est une question qu'on reprendra, qu'on ne va pas traiter maintenant. Je vous propose qu'on passe à la conclusion. Alors, je remercie Hervé Lafaille d'avoir accepté de conclure cette journée. Peut-être, justement, la conclure, si je peux dire, à la fois d'un point de vue prospectif et aussi avec le regard de l'ingénieur.
Oui, oui. Donc, bon, d'abord, je vais répondre à Pierre Radon, il m'a invité à le faire. Hein. Alors, je vais dire oui, d'accord, mais pas tout à fait dans les mêmes termes. Et c'est en marche. Donc, un service public européen du transport, il y a quelque chose. Enfin, si vous regardez la troisième directive qui vient d'être adoptée et le rôle que compte jouer l'association des gestionnaires de réseaux européens qui s'appelle ENTSO et toute fraîche créée, si vous regardez ces deux éléments-là, je pense qu'on va vers ça. Mais évidemment, pour des questions de propriété, pour des questions de nationalisme, on n'ira pas vers un unique gestionnaire de réseau européen. Et d'un point de vue technique, il n'y en a pas forcément besoin. D'accord ? Il n'y a pas que du tout centralisation, et je vous montrerai une illustration. Alors après, la distribution, mais je vais en parler dans mon exposé, moi je crois qu'au-delà des questions de concession, etc., il y a l'introduction, et pour moi c'est le principal facteur d'évolution, vous l'aurez compris, l'introduction de Kyoto, des énergies renouvelables. Change la donne. Parce qu'on a de l'arrivée de production au niveau des réseaux de distribution, et donc la fonction du réseau de distribution, qui était un réseau descendant, change profondément et se rapproche, entre guillemets, de celle du transport. Donc, je ne dis pas qu'il va y avoir intégration, mais en tout cas, il y a un cousinage de toujours, puisque c'est un métier des réseaux, à travailler entre le niveau de transport et le niveau de distribution, puisqu'il y a cet élément-là qui se renforce dans le futur. Alors, moi, j'ai prévu, je tremblais, je disais à mon voisin que quelqu'un aborde le sujet, mais personne n'a prononcé le mot magique de smart grids. Donc voilà, je voulais vous passer quelques planches là-dessus, puisque vous avez certainement entendu ce terme, et je voulais vous donner mon point de vue sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai déjà cité Nicolas Hulot, donc toujours plus fort, Obama. Bon, on ne va pas lire ensemble la déclaration. Pourquoi parle-t-on autant aujourd'hui de smart grid et donc d'un terme anglais? C'est parce que Obama donc, s'est fortement engagé, et si vous lisez entre les lignes sa déclaration, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui, la relance, je la prends au sens plein du terme, la relance de l'économie américaine dépendra très fortement de ce qui va se passer dans les réseaux électriques du futur. Et ça se traduit très concrètement, parce que si les Américains en parlent, c'est qu'il y a une raison, par d'énormes montants financiers qui sont dotés par l'État américain, le DOE, pour stimuler cette histoire de smart grid. Alors qu'est-ce que c'est qu'un smart grid? Vous entendrez dire c'est un réseau intelligent. Alors nous, ça nous fait de la peine quand on entend que c'est un réseau intelligent pour le futur, parce qu'on se dit qu'ils sont déjà intelligents, et ils le sont, hein. Et si vous faites un peu d'anglais, vous savez que smart, c'est pas tout à fait intelligent. C'est élégant. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que pour nous, les réseaux sont un facteur essentiel d'une solution élégante, hein, vous savez, au sens mathématique du terme, à un problème qui est celui de Kyoto. Et si je vais un peu à une de mes conclusions très rapidement, le développement de l'énergie dite renouvelable, dite décentralisée, loin de demander moins de réseaux, va demander plus de réseaux. D'accord ? Et donc, le futur, c'est plus de réseaux. Et alors, pour vous répondre, un des enjeux majeurs pour nous, c'est un espèce de trade-off environnemental. Parce qu'il va falloir choisir. Si ce que je dis est vrai, il va falloir les accepter, ces réseaux, dans le paysage. D'accord ? Et il va falloir comprendre que l'enjeu Kyoto est peut-être supérieur à des enjeux esthétiques. Bon, j'y vais franco, mais voilà, donc plus de réseaux, et il faudra être capable de le construire, ce réseau. Alors, je ne vais pas vous passer toutes mes planches, bon, simplement, en Europe aussi, comme aux États-Unis, il y a des enjeux économiques colossaux pour, justement, le renouvellement et l'amplification de ces réseaux. Alors vous allez voir des tas de figures, si vous allez sur le web, hein, et vous voyez qu'il y a des sites dédiés, Et donc il y a se développe cette idée d'une vision de smart grid. Qu'est-ce que ça veut dire smart grid? C'est, à mon sens, une évolution des réseaux, j'en ai déjà parlé, où il va y avoir, au fond, une intégration plus profonde de la production dans le paysage et donc dans l'ensemble des réseaux. Et vous savez que c'est déjà le cas avec les éoliens. Et puis, effectivement, plus d'électronique, plus de puces, de façon à ce que la gestion écologique et économique de cet ensemble, hein, production, acheminement, transport, soit la plus économe possible, et notamment la plus économe possible en termes d'environnement. Bon, je vous passe rapidement là-dessus. Les énergies renouvelables, ça croît, ça embellit, c'est le futur, c'est un fait. Hein, il n'y a qu'à regarder en Allemagne la progression de l'éolien, en Espagne aussi, en France c'est moins le cas, mais demain nous aurons énormément d'éolien, énormément de photovoltaïque. Si vous avez jamais vu cette photo en bas, voilà, c'est pas une vue, enfin c'est pas un dessin, hein, c'est une photo d'un champ d'éoliennes dans le nord de l'Europe. D'accord ? Donc le futur c'est ça, et il faut énormément en tenir compte. Alors pourquoi il faut plus de réseaux ? Et excusez-moi d'enfoncer mes clous un peu fort, mais vous avez, pour la France par exemple ici, deux jours avec les courbes en rouge de consommation sur les 24 heures de la journée, à l'échelle de la France. Et en France, alors d'abord l'échelle n'est pas la même, mais vous voyez que la forme, évidemment, de la production éolienne ne va pas être la même, car il n'y a aucune raison que la vitesse du vent coïncide avec le moment où vous avez besoin de faire votre cuisine, etc. Et si j'illustrais avec du photovoltaïque, ben tout bêtement, hein, vous voyez bien que lorsqu'il fait noir, le photovoltaïque, on connaît tous sa production. Donc, cette nouvelle production, qui a ses vertus et qui est nécessaire pour les enjeux de la planète, elle a des caractéristiques, et notamment cette caractéristique d'intermittence, qui fait que, d'abord, il va falloir la développer massivement pour aller capter des énergies dites dispersées, et ensuite, il va falloir être capable de l'acheminer pour pouvoir profiter justement des différences de comportement entre les pays et faire le foisonnement de toutes ces énergies, notamment en Europe. Alors là, une image qui nous étonne, c'est que vous avez une salle de dispatching, ces salles de droite habituelles, hein, vous savez, ces dispatching où on surveille en permanence qu'est-ce qui se passe sur le réseau, quels sont les flux, de telle sorte que ces flux ne dépassent pas les capacités des lignes. Et le gestionnaire de réseau espagnol, face à la croissance de l'éolien, a un dispatching dit éolien. C'est-à-dire que, d'abord, il mesure en temps réel, en permanence, la puissance produite par les éoliennes, et ensuite, il va vérifier que le niveau de production de l'éolien ne met pas en danger la sûreté de fonctionnement de son réseau. Un changement très profond qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Alors pourquoi ça peut, en deux mots, et pourquoi ça peut mettre en danger, hein, c'est que si jamais vous avez un incident sur le réseau, les machines type éolienne sont peu robustes à un à-coup de tension, donc tout décroche et vous pouvez vous trouver tout de suite avec un déficit de production énorme et donc des avances de blackout. D'accord ? Bon, voilà un exemple de déréalisation, notamment de notre collègue R2E, donc le gestionnaire de réseau espagnol, pour prendre en compte cette réalité de l'éolien. Alors là, c'était côté production. Maintenant, côté ce qu'on appelle la courbe de charge. Ici, vous avez la courbe de charge française, et vous voyez que depuis 1957 aux dernières années, donc en passant de la couleur verte à la couleur noire, hein, ou bleu sombre, cette courbe de charge a énormément changé, et elle s'est aplatie. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pointes. Et évidemment, moins il y a de pointes, et moins on est obligé de développer des capacités. Puisque les capacités, comme on ne peut pas stocker, sont dimensionnées par les pointes. D'accord ? Donc, alors je ne vous raconte pas l'histoire, mais les tarifs, double tarif que vous connaissez, ça a eu cet effet-là. D'accord ? D'aplatir la courbe en créant en fait des pointes de nuit. Bon. Mécanisme qui existait et qui va exister de plus en plus, et avec les nouvelles technologies. Alors effectivement, on a parlé de Voltalis et de sa Blue Box, je crois, hein, qui l'appelle, hein, mais il faut s'attendre, avec le développement des réseaux informatiques et l'apparition d'un microprocesseur dans chaque maison, à ce que le pilotage qui était jusqu'à maintenant assez frustre, hein, vous rappelez, le double tarif, c'est simplement un relais qui enclenche ou déclenche votre chauffe-eau, par exemple. ce pilotage se fera de manière beaucoup plus fine, où usage par usage, on peut imaginer qu'un processeur permettra de gérer votre courbe de charge au niveau local en fonction de signaux qui viendront très probablement du gestionnaire de réseau. Alors un exemple, alors là qui est la combinaison de deux choses, hein. Développement du véhicule électrique, il y a encore eu des annonces récemment en France, hein. Donc développement du véhicule électrique qui a je vais développer deux facettes. Donc évidemment on gagne sur le CO2 des transports, mais on perd en besoin du réseau, puisque ça fait des consommations électriques supplémentaires, et si on veut des recharges rapides, il faut un réseau robuste pour pouvoir amener de la puissance très rapidement. Ça c'est une facette négative. Une facette positive, lorsque votre véhicule électrique et ses énormes batteries est branché chez vous, s'il y a la possibilité d'utiliser cette batterie, si vous la donnez au gestionnaire de réseau comme secours et ainsi à nouveau d'effacer des pointes, d'éviter d'utiliser d'autres ressources, eh ben, tout le monde gagne. Donc demain, c'est le type de choses qu'on verra se développer. Donc avec deux figures, une optimisation, vous avez compris, locale, mais avec une interaction avec le système global. C'est-à-dire non seulement, si on reprend l'exemple de Voltalis, un gain pour le client parce qu'il va améliorer la pertinence de sa fonction de sa façon de consommer par rapport au signaux prix, et puis pour le système global, une économie, par exemple, des pointes, et donc une économie des moyens nécessaires, que ce soit en production ou en infrastructure. Bon, je passe sur cette image et je vais à l'idée d'après. Parce que si on était au niveau local, régional, si on va au niveau donc des pays et de l'Europe, ça ce sont trois schémas, c'est pas des gestionnaires de réseau qui les ont fait, hein. Il y en a un, je sais plus lequel c'est Greenpeace, d'accord. Donc la vision demain des réseaux électriques de Greenpeace, ça ressemble à ça, c'est quoi? C'est des super supra grids, d'accord, qui couvrent, vous voyez là, des continents. Pourquoi? Pour faire correspondre des choses comme l'hydraulique des pays nordiques, et puis, parce que c'est des gens qui imaginent comme Desertec qu'on va couvrir le Sahara de cellules photovoltaïques et aller capter l'énergie solaire du Sahara, et évidemment ensuite l'acheminer, parce qu'il s'agira de la transporter sur d'encore plus grandes distances, ce qui veut dire que pour nous il y a un enjeu technologique, puisque on change, même si le réseau électrique européen est déjà une très grosse machine, on change d'échelle, ça veut dire, vous le voyez, qu'il faut passer à beaucoup de réseaux sous-marins, ça veut dire qu'il faut passer de courant alternatif en courant continu, bref, beaucoup d'enjeux techniques, technologiques pour nous demain. Donc Smart Grid et Super Grid, Supra Grid, vous verrez les différentes, hein, donc plusieurs images que je vous soumets comme ça. Alors, hein, Monsieur Radan, on commence à aller dans ce sens-là, et notamment RTE participe à quelque chose qui s'appelle Co-Réseau. Il y a un début de ce qui ressemble à un bout de dispatching européen à Bruxelles, auquel RTE participe. Alors ce n'est pas un dispatching au sens qu'il n'a pas la commande du système, mais c'est un centre de supervision qui ensuite alimente les centres nationaux avec des alertes. Vous vous rappelez tous de l'incident en Allemagne qui avait obligé à faire des délestages en France, hein, le paquebot qui avait accroché une ligne au nord de l'Allemagne, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, et pour sauver l'ensemble du système électrique européen, il avait fallu qu'en France, on déleste des clients. Bon, alors exemple de solidarité européenne d'ailleurs au passage, mais qui avait fait un beau tohu-bohu, hein. Ben voilà, c'est pour parer ce genre d'incident qu'on participe à de telles initiatives. Bon voilà, donc quelques points de synthèse, hein, donc... donc voilà, un smart grid, c'est la réponse des réseaux électriques aux enjeux, et notamment aux enjeux d'économie de CO2. Alors j'ai dit oui, un équilibre entre no grid et panzer grid, quoi. Donc il faut tuer cette idée que... alors l'image panzer grid, c'est peut-être celle que nous avions dans le passé. Donc moi, vous voyez, j'essaye de toute force de colorer autrement ce qu'est un réseau et ce qu'est un pylône. Et j'espère vous avoir convaincu, au moins en partie, que un réseau, c'est... D'ailleurs, comme tout réseau, c'est un outil de mutualisation, donc d'économie, donc de partage, que ce soit en termes économiques ou en termes écologiques, quand on fait voyager plutôt la bonne production transformée en électricité, la bonne production, c'est-à-dire économe en CO2. Donc, bon, je passe sur le dernier. Le dernier, oui, j'ai extrait ce transparent, c'était dans un autre cadre, hein. Donc, on n'est pas en retard, nous, en France, là, dans cette perspective-là. Mais Mais voilà, quoi, hein, on a une Minitel qui n'est jamais devenue le web, donc voilà, c'était pour un petit peu dire, il ne faut pas s'endormir, tiens, on a déjà parlé. Bon, voilà, deux planches pour vous montrer tous les beaux schémas qu'on rêve demain à des réseaux qui, au fond, et finalement, c'est ça, des réseaux qui disparaissent. Parce que la fonction d'un réseau, que ce soit du point de vue du marché ou que ce soit du point de vue des autres enjeux, c'est de disparaître au sens que le marché ne doit pas être empêché de fonctionner par le réseau. Les enjeux, le développement par exemple de l'éolien en Allemagne, qui va déborder de l'Allemagne un jour ou l'autre tellement il croit et qu'il faudra acheminer de l'énergie éolienne vers le sud de l'Europe, il ne faut pas qu'il soit empêché par le réseau. Et enfin, j'en reviens aux aspects plus écologiques et esthétiques. Ce n'est pas tellement de faire disparaître le réseau, vous ne m'entendrez pas dire ça, mais plutôt de lui donner une autre image et que ce réseau, on comprenne bien, on visualise bien que ce qui se transporte, bon, alors c'est difficile hein, parce qu'on ne voit pas passer ce qui transporte, d'accord, mais ce qui se transporte, finalement, c'est de l'économie en tonnes de CO2. Voilà ce que je voulais vous dire sur Smart Grid en vision un petit peu plus prospective.
Bien, bah écoutez, je pense que je ne dirais pas que c'est une conclusion, au contraire, c'est une ouverture. Donc je vous remercie beaucoup. Donc voilà, je voudrais juste pour terminer faire une petite liste de remerciements, comme ça se fait d'habitude. D'abord, bon, remercier encore les participants à la table ronde, Christophe de Broguer, Nicolas Garnier qui devait rester trois quarts d'heure ce matin, qui finalement est resté la journée. C'est peut-être le signe que nos débats l'ont intéressé. Donc je l'en remercie. Je remercie évidemment Pierre Radan qui a joué un rôle absolument décisif et essentiel, qui a été à la fois l'âme, l'animateur, le contradicteur, le synthétiseur de ces deux jours. Et vraiment, c'était extrêmement important pour nous de t'avoir. Je crois que ça a été très bien pour tout le monde ici. Et puis alors, bon, terminer en remerciant vraiment RTE, à la fois pour la qualité de son accueil, de l'organisation et surtout l'implication sur le fond. Hein, le fait que vous avez été présent sur le fond. Et vous avez été présent sur le fond, alors peut-être que c'est votre position de transporteur qui vous permet ça, je dirais dans une bonne neutralité, dans une lecture plutôt intéressante, car distanciée, d'autant plus intéressante, car distanciée, dans cette situation de neutralité, donc permettant de bien comprendre les enjeux. Et in fine, je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse Frédéric Rimbaud, ancienne auditrice de l'IEDAT, qui est la cheville ouvrière de cette journée, de ces deux jours, sans qui ça n'aurait pas pu se tenir. Et vraiment, je tiens à te remercier, Frédéric. Tu as bien mérité.